do you?
Il est 18h30 sur la Clé des Ondes et c'est l'heure de Point Chaud. Point Chaud, tous les jours de 18h30 à 19h, c'est un tour de l'actu sociale et culturelle sur la Clé des Ondes. Ce soir, on vous propose de réentendre l'essentiel de ce qui s'est dit dans notre plat de résistance. C'était ce midi sur notre antenne.
Donc, cher Jean-Marc, nous avons Jean-Marc dans le studio.
Bonjour.
Nous sommes soulagés, c'est ce que nous disions à l'instant, tout de même de ce qui se passe. C'est quand même un grand bonheur, enfin pour moi, hein, personnellement. L'extrême droite arrive en troisième position, alors qu'elle était annoncée par les médias grande gagnante, le pouvoir, elle était aux portes du pouvoir. Et puis patatras, hier soir, elle arrive en troisième position. Et la gauche arrive en première position. Enfin, on est quand même, on est étonnés quand même.
Oui. Oui, j'avoue que vraisemblablement, on ne s'attendait pas à ça. Enfin, moi, personnellement, je ne m'attendais pas à ça. D'autant plus qu'il y avait quand même une montée du Rassemblement National. Il faut parler du Rassemblement National maintenant. Depuis pas mal de temps, au niveau des idées, au niveau de l'influence électorale, et malheureusement, les régionales, les européennes, pardon, ainsi que le premier tour des élections législatives n'avait pas inversé cette tendance. Donc effectivement, il y a eu un gros soulagement hier. Moi, j'étais chez des amis à regarder les résultats des élections. Et quand les estimations sont arrivées sur le poste, on s'est regardé, on s'est dit « Mais attends, c'est quoi ça? C'est pas vrai. C'est la surprise du siècle. » Bon, ceci dit, bon, effectivement, ça signifie un grand soulagement. Un grand soulagement, alors, pour tous, mais je pense en particulier un grand soulagement pour les cibles essentielles du Rassemblement National, à commencer par les personnes racisées, ce qu'on peut appeler, à tort ou à raison, les minorités. Et donc, je crois que particulièrement dans ces populations-là, il y a eu un soupir de soulagement qui a été poussé. Enfin bon, moi j'ai vu quelques images du rassemblement de LFI à Stalingrad, et vraiment les gens se prenaient dans les bras, étaient hyper émus, et en particulier un certain nombre de personnes qui visiblement faisaient partie des minorités racisées, et on a vraiment senti que ça lâchait, quoi, que ça lâchait, que c'était un soulagement extrême, et que vraiment ils avaient tremblé pendant un mois à la possibilité que le Rassemblement National passe, et avec les conséquences que ça risquait d'avoir, en particulier par rapport à eux, pas simplement, mais en particulier par rapport à eux. Donc vraiment, oui, soulagement, surprise aussi, mais bon, maintenant, moi je dirais qu'il reste tout à faire et qu'il faut voir maintenant comment la situation va évoluer et comment on va réussir à conserver cette dynamique qui s'est créée, là, de manière un peu inattendue, hier soir.
Tout à fait. Alors, effectivement, il y a la suite qui arrive. Voilà, il va falloir être très vigilant, notamment par rapport à cette union de la gauche. Mais, comme je te rejoins dans ce que tu dis, il y a eu un soulagement énorme. Parce que si certaines personnes ont oublié ce que c'était que l'extrême droite, nous on s'en rappelle. On a cessé de le rappeler dans cette émission et sur toutes les autres émissions de la Clé des Ondes et ailleurs. L'extrême droite, c'est pas anodin. D'ailleurs, on l'a vu dans leur vote au Parlement, puisqu'ils avaient déjà un nombre de députés certains, 90 je crois, où ils ne votaient jamais aucune mesure sociale. Ils faisaient barrage même. Donc ce qu'on a constaté, c'est une récupération par l'extrême droite du discours de la gauche. Donc ce sont des manipulateurs, des menteurs. Et il faut se rappeler d'où ils viennent et ce qu'ils sont. Donc ils ont été, le RN vient du FN, ce qui est la même chose. Créé en 1972 par Jean-Marie Le Pen, le père de Marine Le Pen. Et qui en fait est un fasciste, antisémite. Qui lui-même disait que les camps de concentration qui ont fait 9 millions de morts étaient un détail de l'histoire. Et à l'époque, sa fille était avec lui, elle est tout à fait d'accord sur ce constat. Donc il faut arrêter de... Voilà, il y a eu des sornettes de raconter par les médias dominants, les médias capitalistes au service des ultra-riches, qui n'ont cessé de marteler que c'était l'extrême gauche qui était dangereuse, la LFI notamment, et la gauche qui était dangereuse et qui était dictatoriale, alors que c'est l'inverse. et qui n'ont pas arrêté d'associer l'extrême gauche à l'extrême droite, ce qui n'est pas possible. Dans les idées, c'est absolument impossible. On va rappeler ce que c'est que l'extrême gauche. L'extrême gauche, ce sont des valeurs humanistes, de partage, de respect, voilà, et de faire ensemble, de vivre ensemble. Donc ça ne peut pas aller avec l'extrême droite. Il y a eu un brouillage médiatique et qui est extrêmement grave et qui va continuer et qui risque de revenir et qui va revenir. On n'a pas trop de doutes. Très rapidement, dans ces médias dominants, il n'y a pas qu'Europe 1 qui est d'extrême droite, hein, CNews, il y en a bien d'autres. Ils ont tous ce discours, en fait, qui a amené l'extrême droite à une force politique aussi importante. Il faut vraiment que ça, qu'on ne le perde pas de vue. Que les personnes qui se sont fait un petit peu embarquer dans le discours de l'extrême droite parce qu'ils souffrent de la politique macroniste, et ça on l'entend bien, il faut faire attention, il faut vraiment aller regarder ce qui s'est passé dans l'histoire. Et le Front populaire, c'est absolument pas l'extrême droite. Le Front populaire, il a amené de magnifiques avancées dans la société, notamment française, avec le début des vacances, hein, des congés payés, le droit syndical. Et la semaine de 48 heures, à l'époque, on était à 48 heures, en 1936, ça a été ramené à 40 heures. Enfin, voilà. Et toute la gauche, c'est la gauche qui a mené les grandes avancées sociales. Il faut se le rappeler. Dire la retraite à 60 ans, c'est Mitterrand, c'est la gauche, bon, qui est partie sur la droite après, on est bien d'accord. Mais en attendant, les grandes avancées sociales, c'est la gauche. Donc ce discours-là, il faut arrêter. Et on va se rappeler ce que c'est que l'extrême droite. Je vous propose d'écouter une interview de Pepe Mujica, qui était le président de l'Uruguay. Alors il est parti parce qu'il était très âgé, hein, sur son dernier mandat, et qui a fait une politique d'extrême gauche, de gauche, suite à des années de grosses souffrances. Hein, il était anarchiste, socialiste, et il a été incarcéré, torturé pendant plus de 15 ans dans les prisons en Uruguay. Et ce monsieur, il a réussi à arriver au pouvoir et il n'y a pas eu de dictature de gauche. Enfin, il n'y a pas eu de dictature, au contraire, il partageait même son mandat, ce qui se touchait en tant que président de la République. Les trois quarts, il le donnait au peuple. Et il est allé s'installer, enfin, il est resté dans sa ferme. Il ne voulait pas aller dans le palais présidentiel. Donc, faut arrêter toutes ces sornettes que nous balaient à longueur d'année les médias dominants qui sont de droite et d'extrême droite et qui sont macronistes. Il faut arrêter ça.
Et dirait-on atypique. Les médias le surnomment le président le plus pauvre du monde. José Mujica, lui, préfère dire qu'il vit simplement et pour cause, il donne plus de trois quarts de son salaire mensuel à des œuvres de charité. Ancien guérillero socialiste, il a été emprisonné 15 ans sous la dictature militaire et il a échappé plusieurs fois à la mort. L'une de nos équipes l'a rencontré dans sa ferme près de Montevideo. C'est un reportage signé Rebecca Martin, Alice Pouya et Julien Terral.
Loin des fastes de la résidence présidentielle, c'est ici que vit José Mujica, le président de l'Uruguay. Le seul président au monde à reverser 80% de son salaire à des œuvres de charité.
L'homme pauvre, ce n'est pas celui qui n'a rien, c'est celui qui en vit.
Pour lui, rien n'est plus important que la vie. Et la simplicité, c'est la liberté. Une liberté pour laquelle il n'a cessé de se battre. Anarchiste, puis leader des Tupamaros, un mouvement guérillero inspiré du socialisme des années 60, Mujica a payé le prix de ses convictions pendant la dictature militaire. Il a passé 15 années en prison.
Ce fut très difficile. 14-15 années très difficiles. Et je voudrais en profiter pour dire ceci à la jeune génération. Je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui si je n'avais pas vécu ça. Car l'homme apprend beaucoup plus dans la douleur que dans la facilité.
Il s'évade par deux fois de cet ancien centre pénitentiaire, aujourd'hui transformé en centre commercial. Trahi ensuite par l'un des siens, il passe 8 années en isolement total. Mauricio Rosenkopf était son voisin de cellule. Les tortures qu'ils ont subies n'ont fait que renforcer leur détermination.
Nous avons choisi un chemin, celui de la lutte pour l'égalité sociale, un combat pour la vie. Sur ce chemin, tu peux te retrouver confronté aux barricades militaires, à la mort d'un camarade à tes côtés, et même à la présidence de la République. Mais ce qui compte, c'est de poursuivre la lutte.
Libéré à la fin de la dictature, Mujica devient successivement député, sénateur, ministre de l'Agriculture et enfin président.
Son image d'un homme sympathique, d'un grand-père qui donne de bons conseils, qui parle, marche et s'habille comme tout le monde, tout ça a fait que les gens se sont dit « Tiens, il est comme nous, votons pour lui ».
Pépé, comme on le surnomme ici, est un pragmatique. Mariage pour tous, dépénalisation de l'avortement, nationalisation du commerce de la marijuana. L'Uruguay apparaît comme une enclave progressiste sur un continent latino-américain encore très conservateur. Mais sur le plan économique, la réalité le rattrape.
Il n'applique pas son discours dans sa politique parce qu'il ne peut pas, parce qu'on vit dans un système capitaliste.
Nous ne pouvons pas créer un cataclysme, parce que si le capitalisme arrête de fonctionner et de générer de la richesse, je ne peux plus prélever d'impôts aux plus riches pour répartir au nombre démunis.
Parmi les critiques récurrentes, son franc-parler et son rejet du protocole, souvent sujet à polémique. Mais Mujica n'en a cure, fort du soutien de près de la moitié de la population, il poursuit son combat pour l'égalité sociale à son échelle, convaincu que le changement se fera à long terme.
C'est l'heure à présent.
Et voici donc ce petit reportage. Je ne sais pas ce que tu en penses, Jean-Marc.
Recommandation par rapport à ça, il y a un film qui s'appelle Compañeros et qui retrace justement la lutte des Tupamaros et surtout leur enfermement et la libération. Donc c'est un film qui est excellent, si vous avez l'occasion de le voir, je vous le conseille. Par rapport à ce qu'on disait avant, moi, ça m'a, à la fois d'un point de vue historique et d'un point de vue personnel, moi, ça m'a rappelé, excusez-moi, j'ai parlé un peu de mon histoire de famille, ça m'a rappelé, en fait, le premier Front Populaire, en fait, et la manière dont mon père, qui était jeune encore à l'époque, racontait la soirée autour de la radio, pendant les résultats du premier Front Populaire. Là, il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas d'estimation. Et donc, petit à petit, les résultats arrivaient un par un, et au fur et à mesure de la soirée, l'enthousiasme montait, et finalement, ça s'est terminé, évidemment, en explosion de joie. Faut voir qu'en 1936, peut-être que la situation était encore plus dangereuse, plus terrible que maintenant, même si on passe sous-estimer la situation actuelle. Et puis, toujours sur un plan historique, par rapport à ce que tu disais sur l'origine du Front Populaire, sur l'origine du Rassemblement National, c'est vrai que moi, je suis suffisamment vieux pour avoir un peu été élevé dans le culte de la résistance. J'ai connu de biais indirectement la lutte d'indépendance de l'Algérie. Et effectivement, tous ceux qui se réclament maintenant du Rassemblement National sont issus de cette espèce de lit politique qu'a collaboré avec les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a été à l'origine du massacre de plusieurs centaines de milliers d'Algériens. Et ça, c'est quelque chose qui effectivement, n'est absolument pas diffusé dans les médias, que, au contraire, est complètement tu. Et c'est pourtant bien la base idéologique des gens qui maintenant se réclament du Rassemblement National. À aucun moment, ils n'ont remis en cause ces références. Il n'y a qu'à voir Alliot à Perpignan, qui dernièrement a fait un monument à la gloire d'un des fondateurs de l'OAS, qui avait les mains de Français, d'ailleurs aussi, pas que d'Algériens, le sang de Français et d'Algériens sur les mains. Par rapport à ce que tu disais, sur le fait que le Rassemblement National, excusez-moi, Rassemblement National, j'ai du mal à l'appeler le Rassemblement.
Oui.
sur le fait que le Rassemblement National avait préempté les revendications sociales de la gauche, sans jamais voter la moindre mesure sociale d'ailleurs. Il me semble qu'il y a quand même un truc qui lie les électeurs du Rassemblement National et qu'on ne peut pas sous-estimer, y compris par rapport aux responsabilités de la gauche dans les mois qui viennent, c'est le caractère raciste de ce vote. Le caractère raciste, s'il y a quelque chose qui, à mon avis, bon, il y a eu des écrits qui ont été faits là-dessus, s'il y a quelque chose qui unit les électeurs du Front National, malgré tout, quand même, fondamentalement, c'est la xénophobie, c'est le racisme, c'est le rejet de l'autre, en particulier le rejet de l'immigré, du basanier, de l'arabe, du noir, de l'islam. Ils ont vraiment construit leur discours autour de ce point fort. Et reconnaissons-le, je ne parle pas même de Macron, mais je peux parler aussi un peu de certains partis de gauche qui, loin de s'opposer de front à ce discours, ont eu des comportements plus ou moins conciliants avec ce discours. CF, la manifestation des policiers appelés par Alliance, qui tout le monde sait est un syndicat d'extrême droite, auquel tous les partis, à part et les filles, ont participé. C'était quand même là un point qui montrait bien qu'il y a eu des failles dans la lutte antifasciste et dans la lutte anti-autoritaire. C'est un certain nombre de partis dits de gauche, et que c'est aussi là-dessus que va se jouer l'avenir du nouveau Front Populaire. C'est-à-dire, est-ce qu'ils sauront s'entendre pour avoir justement un discours radical qui serait à même de s'opposer au discours radical du Rassemblement National, ou est-ce que ça va être un discours qui va être différent selon les partis qui font le nouveau Front Populaire.
Et je pense qu'on peut noter aussi que ce gouvernement Macron a joué du côté de l'extrême droite, clairement, et c'est incontestable, avec la loi immigration notamment. Le ministre Darmanin, qui est un racisme, enfin c'est incroyable, alors qu'il nous rejoue en fait, il nous a rejoué la scène de théâtre qu'avait joué Sarkozy, en se positionnant en tant que raciste et en se plaignant ces derniers jours de subir des attaques racistes, ce qu'il appelait des attaques racistes de l'extrême droite, qu'il l'appelait par son second prénom qui est Moussa, parce que rappelons-le, ce monsieur, il est d'origine algérienne. Et Sarkozy nous a fait le même coup, c'est-à-dire lui, il n'était pas français, hein, il a même changé son prénom à l'âge de 18 ans, comme tous les étrangers ont le droit de le faire. Ce monsieur, je ne me rappelle plus, il ne s'appelle pas Nicolas du tout à la base, et c'était le pire raciste, il allait sur l'extrême droite. Enfin, on a quand même une droite, parce que Macron c'est de la droite, ça n'a jamais été de la gauche, qui se dit républicaine et qui joue la partition raciste d'extrême droite. C'est quand même ça le gros problème. À mon avis, c'est l'une des problématiques qui a fait monter l'extrême droite fortement.
Oui, oui, tout à fait. Et puis, je crois que c'est Thierry ou toi qui parlais du rôle des médias.
Moi.
Et toi, oui. Moi, ce qui m'inquiétait encore plus que la montée électorale, enfin, peut-être pas plus, mais au moins autant que la montée électorale du Rassemblement National, c'était l'impact que petit à petit ces idées avaient dans les médias, y compris dans les médias dits mainstream. Il n'y avait pas que sur CBeat ou que sur Europe Numéro 1 où on nous balançait sans arrêt la propagande du RN, et même sur des radios, y compris des radios dites du service public, on s'apercevait que petit à petit il y avait une prégnance des idées du RN qui se faisait et qui tendait à développer incidemment les idées qu'il défendait. Et ça aussi fait énormément de mal, je pense. On a remarqué d'ailleurs, je ne sais pas si c'est par rapport à la garantie de l'emploi ou autre, mais on a remarqué d'ailleurs que certains médias, je pense en particulier à France Info, à partir du moment où le nouveau Front Populaire s'est créé, et à partir du moment où il y a eu un résultat un peu correct, et puis aussi la décision de se désister au second tour, on s'est aperçu qu'il y avait un léger changement de ton et que petit à petit, c'était pas transcendant, mais qu'il y avait un rééquilibrage, non pas sur les idées, mais au moins sur les informations concernant les partis de gauche.
Tout
comme
à fait.
Comme quoi, en ce qui concerne les médias, les médias mainstream en tout cas, je crois qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Là aussi, c'est une question de rapport de force politique.
Tout à fait.
Voilà.
On va faire une petite pause musicale, justement, avec Rachid Taha, Yahaya. Mmh. Nous sommes toujours sur la clé des ondes 90.10 dans l'émission Les Vieux Fourneaux où nous décryptons l'actualité avec Jean-Marc. Alors nous disions à l'instant, Jean-Marc, que donc la gauche arrive en tête suite à cette élection législative d'hier soir. On est un petit peu surpris, mais largement soulagé. Alors maintenant, on va se poser la question de la suite. Et il risquerait d'y avoir quelques pièges de la part des macronistes, de Macron, qui est quand même un peu embêté, là, qui va a priori garder son Premier ministre pour gérer les affaires courantes. Enfin, là, il est peut-être. Voilà, pour l'instant, il est en train de réfléchir, apparemment, d'après ce qu'il dit. Et la gauche serait en position d'aller au poste de Premier ministre, mais c'est peut-être pas une bonne idée.
Alors, par rapport à ça, il y a deux choses à dire. Bon, d'après ce que j'ai entendu ce matin, l'ensemble des forces de gauche, alors, oui, c'est ça, pas entendu le PC, mais le PS, les Verts et les FI sont sur un discours du type « on veut gouverner ». On veut avoir un Premier ministre. D'ailleurs, apparemment, ils sont en train de se réunir pour désigner quel serait le Premier ministre de gauche qui pourrait prétendre à ce poste-là, du moins s'il était désigné par Macron. Donc, je pense que, dans un premier temps, compte tenu malgré tout du succès de la gauche, ils étaient un peu obligés de jouer le jeu de « on veut gouverner », sinon ça n'avait pas grand sens. Ceci dit, gouverner dans une situation telle que celle-ci, c'est-à-dire avec une majorité minoritaire, si je puis dire, avec trois gros blocs, malgré tout, qui restent la gauche ensemble et le Rassemblement national, ça va être extrêmement compliqué. Ça va être extrêmement compliqué d'un point de vue parlementaire, parce que y a pas de majorité stable, donc il va falloir négocier chaque projet de loi, vraisemblablement, et on ne sait pas trop comment ça va se passer. Ça va être compliqué parce que, de toute façon, la gauche, surtout en position de majorité relative, va se voir, il ne faut pas se faire d'illusions, confrontée à un certain nombre d'obstacles pas simplement parlementaires, mais d'obstacles au niveau du patronat, au niveau d'un certain nombre de groupes sociaux qui, bien évidemment, ont freiné des quatre fers par rapport à un éventuel gouvernement de gauche. Et puis, par rapport à la recomposition, on va appeler ça comme ça, la recomposition des blocs politiques, j'ai vu ce matin là, que la présidente, c'est pas la présidente, c'est la la speakerine, non, c'est pas la speakerine non plus. Enfin bon, voilà, celle qui était à la...
La porte-parole, peut-être ?
Non, celle qui était désignée pour être à la tête de l'Assemblée nationale.
Ah oui.
Si vous retrouvez le nom, aidez-moi.
Ron Privé.
Voilà, Ron Privé, oui. Qui commençait déjà à avancer l'idée d'un large arc centriste qui irait d'ensemble jusqu'au PS et les Verts, peut-être, mais en tout cas en excluant LFI.
Bien sûr.
Donc je pense qu'à mon avis, ils vont réussir à au moins essayer d'instiller cette idée-là, qui correspond d'ailleurs un petit peu au discours que développaient Macron et Attal pendant les élections, c'est-à-dire l'arc républicain sans le RN et sans LFI.
Ouais.
J'ajouterais que par rapport à ça, les partis de gauche vont être amenés à se poser la question de savoir si effectivement ils font bloc, ils tiennent toujours ensemble, ou s'il va y avoir des appâts pour un certain nombre d'entre eux, susceptible de rallier cette proposition de Yann Privé. Quand on voit par exemple que notre ami Hollande a été réélu, on peut penser qu'un certain nombre de personnes élues au niveau du PS vont peut-être être tentées par cette solution politique, je ne sais pas, mais en tout cas moi j'avoue que c'est une crainte que j'ai.
Oui, il y a de quoi être en crainte, effectivement, parce que le PS, bon, on a vu ce qu'ils ont fait hein, avec Hollande. 5 ans de droite, hein, puis même voire, moi je dirais, d'extrême droite avec Valls qui faisait la chasse aux Roms, mais tout le monde a oublié ça, moi je ne l'ai pas oublié. Donc ils ont intérêt à se tenir à carreau, quoi, le PS. Ils sont dans l'Union de la gauche, ils sont dans le Front populaire, ils ont intérêt à ne pas les jouer avec Macron, parce que là je pense que ça va mal se passer pour eux. Enfin, ça commence à bien faire, là, cette histoire. Donc on va voir ce qu'ils font. Je pense qu'ils ont quand même les coudées, ils sont un peu bloqués quand même, hein. Là, vu ce qui se passe, ça va pas être si simple pour eux de trahir une deuxième fois. On va voir, on attend. Et j'ai entendu, alors je sais pas qui l'a dit ou pas, qu'une chose serait pas mal à faire là, c'est de faire dans tous les quartiers et les villages des collectifs Front Populaire, des comités, enfin, je sais pas, on appelle ça comme on veut, pour que la population tienne bien ce collectif, là, cette union de la gauche, ce Front Populaire, pour justement éviter que le PS ou d'autres soient tentés d'aller s'unir à Macron, qui nous a amenés à cette situation extrêmement grave et dangereuse, où on a eu très très peur que l'extrême droite arrive au pouvoir.
Fait-il que les deux premières lettres du verbe aimer soient
tibada, bada,
i,
bada, tibada,
et que les deux dernières d'avenir soient
tibada,
i, r,
bada, tibada, ti,
i, r,
taba.
C'est le monde à l'envers.
Badap, tap, ti, badap, ti.
C'est le monde à l'envers. Le bas en haut, la tête par terre.
Badap.